Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, c'est mon acolyte dans ce studio. Vous permettez que je vous appelle mon acolyte ?
Ça me va, c'est acceptable.
La team Sans Rendez-vous. Allez, c'est parti, Gomez Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on a décidé de vous faire du bien. On est d'ailleurs en position zen sur notre chaise avec Jimmy, car on va vous parler aujourd'hui de méditation. Enfin, pas nous précisément, mais notre invitée, le docteur Marine Colombel. Elle est psychiatre et publie un livre sur le sujet. Son titre, c'est « Méditation pour des journées plus zen » chez Marabout. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Et vous l'entendrez, la méditation, c'est bon pour le moral, mais c'est aussi utile pour mieux manger et mieux dormir. Quoi demander de plus ? Ensuite, dans notre chronique « Les bobos du quotidien », Jimmy va s'attaquer à un sujet crucial pour aider les parents. Il va nous parler des vers intestinaux chez les enfants, qu'on appelle aussi l'oxyurose. Je l'ai bien dit, Jimmy ?
Oui, pour une fois, bravo. Ouais,
c'est bien, 70 à 80% des enfants en ont un jour ou l'autre. Il nous dira quoi faire pour s'en débarrasser. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une femme qui vient de découvrir que son mari l'a trompée et qui se demande comment se fait-il qu'elle n'ait rien vu alors que la liaison en question a duré 2 ans.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Jean-Pierre de Bayonne. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Chaque fois que je me couche le soir, au bout de quelques minutes, j'ai une douleur au haut du dos. Celle-ci ne m'empêche pas de dormir, mais par contre, le matin, quand je me lève, alors là, c'est une très forte douleur, et celle-ci ne dure que quelques minutes, à peu près 5 minutes. Quand je suis debout, après, ça passe. Et je ne sens plus rien de toute la journée. Voyez-vous, qu'est-ce que cela peut être ? Merci, à bientôt, au revoir.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre question. Alors bien sûr, je précise qu'ici on ne fait pas de consultation, mais Jimmy peut orienter un peu, guider en tout cas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Jimmy, une douleur dans le haut du dos, comme l'a décrit à peu près Jean-Pierre, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça pourrait pas être un problème peut-être de positionnement dans la journée ?
Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant quand on a des douleurs au niveau du haut du dos. Autant le bas du dos, dans l'immense majorité des cas, c'est lié à un petit lumbago, des mauvaises postures, un dos qui est un peu faible. En revanche, lorsque vous avez mal au niveau des cervicales, ou un petit peu plus bas au niveau des vertèbres dorsales, entre les deux omoplates, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir des causes un peu plus graves qu'un simple problème de posture. Vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine qui vont se projeter dans le dos, des douleurs au niveau de la vésicule biliaire qui peut aussi se projeter dans le dos. Et donc, au haut du dos, il faut être un peu plus vigilant et consulter un peu plus que d'habitude.
Alors, c'est peut-être pas le cas de Jean-Pierre, mais rappelons quand même que les maux de dos, les deux cervicales notamment, puisqu'on en parle quand même si c'est pas ce dont vous parliez juste avant, il y en a de plus en plus en ce moment, notamment à cause des mauvaises conditions de télétravail.
Exactement, hein. On télétravaille, du coup on est assis, voûté, mal positionné.
Parce qu'on n'est pas équipé chez soi avec des bonnes tables,
exactement,
des bonnes chaises.
L'atmosphère est un peu stressante en ce moment, donc on a des contractures et en fin de journée, eh bien on va accumuler ce stress et ces mauvaises positions qui vont se payer notamment la nuit. Et un conseil tout simple, le premier, c'est de ne jamais dormir sur le ventre. C'est la pire des positions pour votre dos. Normalement, il faut essayer de dormir sur le côté ou sur le dos. Et attention avec l'oreiller, la tête pas trop penchée, pas trop fléchie. Sinon, c'est des douleurs assurées.
Très bien. Alors, ce qui est étonnant quand même, je reviens à la question de Jean-Pierre, c'est qu'il parle de douleurs au réveil très lancinantes qui durent certes que 5 minutes. Il n'y a pas des maladies inflammatoires un peu rhumatismales là, qui provoquent ce genre de problème au réveil, justement ?
Quand vous avez des douleurs, il faut savoir deux choses. Soit c'est une douleur mécanique. Quand vous marchez, c'est douloureux. Vous arrêtez, ça va mieux. C'est pire en fin de journée, après une journée difficile, des douleurs inflammatoires qui vont réveiller la nuit, avoir un dérouillage matinal, on va mettre pendant plusieurs minutes avant de chauffer les articulations. Raison pour laquelle il faut consulter, au moindre doute, il aura une prise de sang et des radiographies pour être sûr qu'il n'y a rien de spécial. Donc on invite Jean-Pierre à consulter.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre tout de suite une autre question qui nous a été envoyée dans un courrier. C'est Bernadette de Lunel, dans l'Hérault. Elle nous écrit et dit « J'ai des problèmes de sécheresse oculaire dont Jimmy a parlé, je crois, un matin sur Europe 1. » Vous avez une auditrice fidèle le matin, Jimmy.
C'est pas mal.
À quoi c'est dû en règle générale et surtout comment me procurer des larmes artificielles dont il parlait ? Faut-il absolument passer par le médecin ? Jimmy, d'abord, la sécheresse oculaire, c'est quelque chose de fréquent ? Il se passe quoi dans l'œil physiologiquement ?
Alors, ce serait la sécheresse oculaire. Un Français sur trois qui en souffrirait d'après les ophtalmos, donc c'est pas mal. On oublie le pouvoir extraordinaire des larmes, elles ont trois fonctions globalement. Donc il y a de l'eau, il y a du sucre, il y a du sel dedans, mais aussi des corps gras et des lipides qui vont avoir plusieurs fonctions. Quand vous avez un corps étranger, un cil, une poussière, eh bien vous allez vous mettre à pleurer pour éliminer justement ce corps étranger.
Ça en fait, c'est un sauvetage, les larmes.
Exactement.
Comme ça. Ouais, d'accord.
Ça va servir de lubrification, vous avez des lipides dedans et des anticorps qui vont faire que l'œil doit rester stérile. Et puis, vous avez les larmes émotionnelles qui permettent d'évacuer une douleur. Et d'ailleurs, dans cette composition de larmes, eh bien, on retrouve des hormones, notamment de la prolactine. Donc les larmes, eh bien, elles ont une véritable fonction. Et en ce moment, on se rend compte que les Français souffrent de sécheresse.
D'accord. Et les symptômes, quand on a les yeux secs, la sécheresse oculaire, on a quoi? Ça pique, ça gratte, ça brûle, ça fait quoi?
Exactement. Ça pique, ça gratte, ça brûle, ça démange. C'est lié à deux choses. Un, on télétravaille, donc on est à la maison avec une chaleur qui est différente et une humidité qui est différente de celle du bureau.
Un peu trop de chauffage peut-être. Hein,
trop de chauffage. Et puis, on porte un masque qui va redistribuer l'air vers le haut. Et on a tendance à regarder les écrans de façon fixe, sans cligner des yeux, puisqu'on est absorbé par l'écran. Et lorsqu'on cligne des yeux, normalement, on répartit les larmes de façon diffuse pour éviter la sécheresse oculaire. Donc, on est obligé de porter le masque et de faire du télétravail. Acheter des larmes artificielles en pharmacie.
Sans ordonnance, avec ordonnance.
Sans ordonnance. Oui, ne pas hésiter à aller voir l'ophtalmo.
C'est pas pareil que le sérum phy, hein, c'est autre chose.
Le sérum physiologique, c'est pour laver les crottes de nez simplement.
Vous savez bien ce que moi, je voulais les mettre dans les yeux. Hein,
n'hésitez pas à consulter. Et puis, il faut vraiment cligner des yeux régulièrement et donc faire des pauses. Une pause s'impose de temps en temps.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Marine Colombel. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes psychiatre à l'hôpital Barthélémy Durand à Étampes et autrice du livre Méditation pour des journées plus zen chez Marabout. Alors on va commencer par la base, hein, puisqu'on va partir du principe qu'on n'y connaît rien à la méditation. Jimmy, il connaît presque rien, hein, je vous cache, hein, Jimmy. Voilà, non, je plaisante évidemment. Alors méditer, très concrètement, s'il y en a une définition, on va dire, c'est quoi?
Alors la méditation, c'est vrai que depuis quelque temps, on l'entend quand même ce mot un peu partout. On l'entend dans les journaux, dans les médias, c'est un peu à la mode. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que la méditation? Ça, c'est une très bonne question. Donc la méditation, c'est un état amplifié de conscience. C'est un exercice dans lequel on va apprendre à prendre les mains sur notre attention et au lieu de partir dans nos pensées, dans nos ruminations, on va ramener notre attention sur ce qui se passe pour nous à l'instant présent, sur les sensations de notre corps, sur notre respiration. Et ce recadrage de la pensée, on va dire, vers le corps, va avoir de nombreux bénéfices, notamment sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress.
Et la méditation, ça vient d'où? Est-ce que ça fait très longtemps que ça existe?
Alors, c'est une histoire qui est très ancienne, la méditation. Surtout donc, en Asie, on sait que les premiers textes qui évoquent la méditation sont sortis il y a 500 ans avant Jésus-Christ.
Ah oui. Donc on dit que c'est à la mode aujourd'hui, mais c'est à la mode depuis longtemps.
Par exemple, le Yoga Sutra, juste pour en citer un. Donc il y a vraiment une tradition qui est très ancienne en Asie, où la méditation finalement est allée dans toutes les civilisations.
Yoga Sutra, c'est un mix de yoga et Kama Sutra, ou ça n'a strictement
aucun rapport? Ça vous interpelle, hein,
c'est quoi le Yoga Sutra?
Non, j'avoue, j'ai pas tilté, mais
alors,
c'est vrai que je connais pas non plus.
Quand on prend le mot yoga, ça veut dire lié en sanskrit. Donc c'est la pratique de la méditation, tout simplement.
Et Kama, ça veut dire quoi, du coup, vous savez?
Alors Kama, je sais pas, mais Sutra, je sais. Et Sutra, c'est l'enseignement.
D'accord.
Simplement, c'est l'enseignement de la méditation, c'est simple.
Okay. Et alors, pour le coup, si ça existe depuis moins 500 ans avant Jésus-Christ, la méditation, en médecine, vraiment précisément, dans l'univers médical en tout cas, ça s'est apparu à partir de quand et pour traiter quoi, peut-être dans un premier temps?
En médecine occidentale, c'est arrivé, mais beaucoup plus tardivement. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que la méditation arrive un petit peu en Occident, et même les années 1970,
ah oui,
pour que les premiers médecins américains et européens connaissent la technique et l'intègrent dans leur thérapie. Donc, là, il y a eu des grands précurseurs, je pense notamment au docteur Kabat-Zinn, qui connaissait la méditation et qui a vu les bénéfices sur lui-même. Il s'est dit, mais moi, j'arrive à gérer mon stress avec ça. Pourquoi pas le proposer simplement à mes patients? Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des programmes de méditation, mais il les a sortis vraiment du contexte religieux. Il les a laïcisés et il a pris seulement la technique pour l'enseigner à ses patients, et ça a très bien marché.
Quand on entend méditation, on pense qu'il faut méditer comme un moine bouddhiste du matin au soir, que ça va être long, que ça va être
pénible.
On
n'est pas obligé de se raser la tête, je crois. Hein.
Non, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'on peut méditer sur de courtes périodes?
La méditation, c'est un peu comme le sport. Ça veut dire que ce qui va être vraiment important, c'est plus la fréquence et la régularité que le temps qu'on y consacre. Au début, si on ne fait que 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, ça suffit. Il va falloir simplement apprendre à notre cerveau ce fonctionnement qui est nouveau pour lui, parce qu'on n'est jamais habitué à se dire « Non, je ne pars pas dans mes pensées, je ne pars pas dans le futur ou le passé, je reviens sur le présent, sur ce qui se passe pour moi à l'instant présent. » On va lui réapprendre cette technique-là. Et si on fait ça un petit peu tous les jours, qu'on consacre 5-10 minutes, on a déjà des résultats qui peuvent apparaître assez vite.
J'allais vous dire, au bout de combien de temps il faut méditer comme ça, bon, de manière un peu régulière, c'est un entraînement, au bout de, je sais pas.
Dans les études scientifiques, on a vraiment des résultats concrets, ça veut dire visibles à l'imagerie cérébrale, au bout de seulement 8 semaines.
Oui, c'est court.
Au bout de 2 mois, on a déjà des changements qui sont même visibles à l'IRM, donc oui, ça peut aller très rapidement. Lorsqu'on se met à la méditation.
Alors évidemment, il doit y avoir des règles pour méditer correctement, mais est-ce que ça commence par la posture? Est-ce qu'il faut forcément être assis pour méditer? Est-ce qu'on
position
peut essayer...
du lotus?
Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est les clichés, mais est-ce qu'on peut méditer en étant debout, par exemple?
Ça, c'est une bonne question. Donc, la posture la plus connue, évidemment...
Parce qu'elle est sur la première page de votre livre. Hein, voilà. Enfin, moi, j'allais dire, c'est ça la position du lotus? Oui, c'est... La,
pas, enfin, quatre, pas tout à fait. Bon, on va reprendre, pattes, un, ça, on va reprendre un petit peu.
La sexo, c'est après, oui, Mélanie, attention. Hein.
Avec les bras en l'air, en position zen, Bouddha.
Alors, la position traditionnelle, effectivement, c'est assis. Donc, pour méditer assis... On peut soit méditer sur le sol directement en position du lotus, un peu la position qu'on voit par exemple chez les Indiens, mais on peut également méditer sur un coussin de méditation. On peut aussi méditer simplement sur une chaise. Et là, la posture est très simple à prendre, il n'y a besoin d'aucun matériel. Il suffit de se mettre sur le bout de la chaise avec les pieds bien ancrés dans le sol. Mmh. On fait une petite bascule du bassin vers l'avant et on rentre le menton vers l'arrière. Et si vous le faites en même temps que je décris ce geste, vous allez voir que spontanément, votre colonne va s'aligner et vous aurez une posture qui est parfaite.
Donc, il ne faut pas être avachi, il faut plutôt être droit quand même, et bien là, installé dans le sol. Quoi. C'est ça,
il faut
quand
être
même
bien ancré et ça passe par l'alignement de la colonne vertébrale et ce petit mouvement suffit.
Donc, et là, les mains, on les met où? Parce que dans le livre, elles sont en position... Je ne sais même pas décrire cette position, Jimmy, aidez-moi, parce que je ne sais pas comment
Les mains en l'air, les mains doigts, en l'air, l'index touchant le pouce.
Voilà. Ça, c'est un moudra particulier. Lorsqu'on est assis sur une chaise, en fait, la position où on met les mains plus en avant, un peu comme cette position-là, c'est lorsqu'on est assis à plat au sol. Ça permet finalement de rééquilibrer la colonne. Lorsque vous êtes simplement sur une chaise, il suffit de mettre ses mains chacune sur les cuisses ou l'une dans l'autre au niveau du nombril. Et ça permet largement d'avoir une bonne posture. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec la position des mains.
Et est-ce que la respiration est importante? On respire par le nez, par la bouche? Comment on fait?
Le mieux lorsqu'on médite, c'est de respirer par le nez. Donc, si on est enrhumé, évidemment, on respire par la bouche. Mais il vaut mieux respirer par le nez parce que ça va stimuler plus facilement le système parasympathique qui est lié à la méditation. On va rentrer dans un état méditatif beaucoup plus facilement en respirant par le nez.
Est-ce que l'heure à laquelle on se lance dans la méditation, je ne sais pas, c'est un truc du matin, du soir, ou alors finalement c'est très subjectif, ça dépend vraiment des gens?
Lorsqu'on débute la méditation, je crois que le plus important, c'est d'instaurer une routine. Finalement, la difficulté, ce n'est pas la technique parce qu'elle est assez simple à mettre en place, c'est plutôt penser à le faire. Et on pense plus facilement à mettre une nouvelle routine en place lorsque c'est toujours dans le même contexte. Donc, choisir un horaire de la journée.
Qui vous va bien, mais toujours le même,
bien,
par contre.
Mais le même. D'accord. Il y en a qui sont plus du matin, d'autres plus du soir. Je sais qu'habituellement, on dit plutôt de méditer le matin au lever du jour. Mais moi, par exemple, qui ne suis absolument pas du matin, je médite tous les soirs.
Voilà. Donc c'est tout à fait possible. On peut
donc
en bénéficier.
C'est tout à fait possible.
Docteur, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, notre invité en studio, c'est vous, docteur Marine Colombel. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Barthélémy Durand à Étampes et autrice du livre Méditation pour des journées plus zen chez Marabout. Alors, docteur Colombel, pardon, méditer, ça peut aider à mieux manger. Moi, j'ai dit ça tout à l'heure pour teaser cette partie-là, mais il faut quand même un petit peu nous expliquer. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir davantage nos sens pendant les repas, parce que c'est vrai que parfois bon, il suffit de regarder Jimmy quand il avale son sandwich le midi, je ne suis pas sûre qu'il soit en pleine méditation, il ingurgite plus qu'il profite, quoi. Voilà, c'est ça.
Alors, donc, ça s'appelle le repas en pleine conscience ou le mindful eating pour ceux qui parlent anglais. Ça consiste à prendre l'état d'esprit de la méditation, ça veut dire revenir à l'instant présent, mais sur les activités de tous les jours. Et une des grandes activités qu'on fait quotidiennement, c'est manger. Lorsqu'on fait attention à notre façon de manger, effectivement, souvent, on n'est pas là. On est avec notre portable, on est avec la télé, et on mange le plat, mais sans finalement
faire attention.
Mais
de façon un peu mécanique, quoi, c'est
mécanique.
Ça,
ouais. On ne fait pas attention ni aux saveurs, ni sur ce qui se passe dans notre assiette, mais pas non plus sur ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, on n'écoute pas les signaux de satiété, les besoins. Donc ça, la conséquence, souvent, c'est le grignotage, par exemple. Les mauvaises habitudes qui font qu'on va déséquilibrer notre apport alimentaire. et peut-être prendre du poids lorsque ça se répète.
Souvenez-vous, Mélanie, je
vous
dis.
Vous reconnaissez Jimmy, non?
Eh oui, non, mais rappelez-vous, vous avez englouti votre repas. Je dis, Mélanie, on se prend son temps.
On se calme.
Mange doucement.
C'est vrai que je mange trop vite.
Des petits morceaux. Ouais. Et justement, vous proposez l'exercice du grain de raisin. Qu'est-ce que c'est?
Donc, ça, c'est un premier exercice à essayer lorsqu'on débute la méditation. C'est simplement prendre un seul aliment, mais tout petit, en toute petite quantité.
Oui, parce que si on n'aime pas le raisin, on peut prendre autre chose.
On peut prendre autre chose, évidemment. L'objectif, c'est juste d'avoir quelque chose de petit à mettre en bouche pour ne pas avoir de difficultés à avaler. On prend quelque chose de petit et on va l'explorer avec nos cinq sens. On va aller observer, par exemple, les odeurs. On va observer le toucher lorsqu'on touche l'aliment. On va observer la couleur. Et ensuite, une fois qu'on le met en bouche, on va laisser le temps à l'aliment de vraiment dégager toutes ses saveurs avant même de croquer. Observez ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on mange cet aliment.
Je sens presque le goût du raisin là quand elle le raconte.
Et là, c'est étonnant. Ouais. Lorsqu'on fait l'exercice, vraiment, on redécouvre chaque aliment et on découvre la puissance gustative de chaque aliment. Ça permet vraiment une vraie rééducation sensorielle. Et on peut soit faire ça avec quelque chose qu'on aime, donc ça va amplifier le plaisir gustatif.
Bien sûr.
On peut aussi essayer avec des choses qu'on n'aime pas à la base. Et vous allez voir que vous êtes assez étonnés parce que finalement, notre sensorialité est extrêmement riche. C'est juste qu'on a tendance un peu à l'oublier, comme on est dans un monde où on est très porté sur les écrans. Notre esprit est ailleurs, nos sens sont un peu amoindris. Lorsqu'on redécouvre la puissance de nos sens, c'est une véritable découverte. Et la méditation va vraiment aider à cette redécouverte du pouvoir de notre corps, du pouvoir de nos sens.
Et est-ce que si on fait ça, on peut se dire qu'on va faire moins de craquage alimentaire en journée?
Si vous faut 10 minutes à manger un grain de raisin, je peux vous assurer que vous en mangerez moins de 10 minutes, je pense.
Oui, mais on peut se dire un grain de raisin, finalement, ouais, ça va être vite absorbé et puis on va manger notre repas. Mais est-ce qu'en fin de journée, on peut avoir moins de pulsions, par exemple, alimentaires grâce à ça?
Ça va complètement diminuer les pulsions parce qu'au lieu de manger sans faire attention, le bon exemple, c'est j'ouvre un paquet de chips devant la télévision. On se dit, je vais manger une chips et finalement, on arrive à la fin, on n'a rien vu passer.
C'est vrai. Mais on peut manger un paquet de chips comme ça aussi, en pleine conscience, pourquoi pas?
Vous n'arriverez pas à la fin du paquet de chips. Si vous prenez vraiment le temps d'être dans la sensorialité, vous allez voir que votre corps, très rapidement, il vous dira stop.
Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire plutôt tout seul, non? Parce que si on commence au milieu du repas en famille, avec les enfants excités, etc., à dire, alors attendez, moi je vais prendre mon grain de raisin, il faut vraiment être seul à table pour faire ça?
L'exercice, si pour débuter la première fois, vous pouvez le faire seul, mais après, rien n'empêche de faire des moments dans la semaine où on va faire peut-être un repas, c'est un peu long, mais...
Vous le pratiquez régulièrement, vous, cet exercice?
Je pratique régulièrement, au moins sur quelques bouchées. Par exemple, la première bouchée de chaque plat, on va la faire en pleine conscience, simplement en sensoriel. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible par tout le monde, même par les enfants. Justement, les enfants qui sont à la découverte de leur sens, à la découverte de l'alimentation, ça peut être un bon moyen aussi de les accompagner pour les nouveaux plats.
Vu qu'on parle d'alimentation, est-ce que ça peut aussi agir sur ce qu'on appelle les kilos émotionnels? Alors pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est? Et est-ce qu'on peut essayer de s'en débarrasser ou en tout cas améliorer les choses avec la méditation?
L'alimentation sert souvent à combler lorsqu'on a des émotions qui sont très fortes, qui nous débordent. Une des tendances finalement pour aller se rassurer, c'est une tendance assez archaïque. On va aller vers l'aliment qui nous plaît. Et souvent, l'aliment qui nous plaît est trop sucré, trop gras, ça peut être des bonbons, des gâteaux, pour avoir ce sentiment un peu de se remplir et de retrouver un peu cette contenance. Lorsqu'on arrive à faire un stop, à faire une méditation, on va aussi aller prendre cet aliment, mais au lieu d'en prendre énormément en quantité, on va rassasier nos sens finalement, simplement avec peut-être un carré de chocolat au lieu de manger
la tablette.
Toute la tablette. Et donc là, ça fait toute la différence avec le sentiment donc de bien-être, ce qu'on appelle aussi les aliments doudous qui vont nous remplir, qui vont nous faire du bien. Au lieu d'en prendre énormément, peut-être qu'un seul petit morceau, là, cette fois-ci, va nous suffire, va nous permettre d'observer nos émotions, de les calmer. Et ça va éviter les kilos émotionnels parce qu'on va réguler la prise alimentaire.
Quand on parle de kilos émotionnels, on parle aussi de stress, évidemment. La méditation sur le stress, là, c'est peut-être plus intuitif quand même, mais ça fonctionne bien. Et là, ça remonte même à la préhistoire, je crois.
Donc ça, c'est pas la méditation, mais le stress, oui.
C'est ça.
Donc le stress, c'est quelque chose de, même avant la préhistoire, c'est quelque chose de très archaïque parce que les animaux aussi ressentent le stress. Donc ce n'est pas seulement l'humain qui vit ça. Et je pense que c'est important de revenir sur ce qu'est le stress. Parce que ça, c'est une notion qui est finalement, on parle beaucoup du stress, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Le stress, c'est la capacité du corps à s'adapter à un changement, quel que soit ce changement. Notre corps n'aime pas se modifier. Donc lorsqu'on le met dans un environnement qui change, il va développer des choses, des mécanismes dans le corps. Par exemple, il va libérer certaines hormones dans le corps qui fait que le corps va s'adapter à ce changement. Le cœur va aller plus vite. Peut-être qu'on va transpirer un peu plus, on va respirer un peu plus vite. Tous ces changements sont des changements naturels qu'on appelle le stress. Ça, c'est naturel. Le souci, c'est lorsque ce mécanisme, au lieu d'être aigu, devient chronique. Ça veut dire qu'au lieu que ça soit une fois de temps en temps pour une situation stressante...
On est tout le temps comme ça.
On est tout le temps comme ça. Et ça, c'est extrêmement épuisant pour notre corps. C'est là où il faut agir. Il va falloir faire une désescalade justement au niveau émotionnel, réussir à se recentrer et à calmer nos émotions. Et c'est là que la méditation va intervenir.
Docteur Colombel, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi, c'est le docteur Marine Colombel. Je rappelle que vous êtes psychiatre et spécialiste en méditation, notre sujet du jour. Alors docteur Colombel, on a vu que la méditation pouvait se pratiquer en journée mais aussi le soir. Vous, c'est ce que vous faites avant de vous coucher parce que ça peut avoir un impact sur notre sommeil. Ça, c'est vraiment prouvé. Il y a eu des études sur le sujet, troubles du sommeil, méditation.
Oui, la méditation marche très bien sur le sommeil, surtout pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Les gens qui sont soumis, par exemple, au stress dans la journée, vont avoir tendance, lorsqu'ils vont se coucher, à avoir les mêmes émotions et à ruminer. Vous savez, avoir toujours les mêmes phrases dans la tête ou à ressasser...
Tout ce qu'ils ont à faire demain, tout ce
voilà,
qu'il faut
la
faire.
Journée de, soit demain, soit de la journée, ouais. refaire le point. La méditation va vraiment permettre de faire un sas. Ça veut dire de se recentrer sur les sensations du corps, sur les sensations du corps qui s'endort, ce qui va être très favorable pour le cerveau finalement pour comprendre que c'est l'heure de dormir et non pas de rester en éveil et favoriser l'arrivée spontanée du sommeil.
Et est-ce que du coup ça peut aussi nous aider à nous recaler? On sait qu'on se couche un peu trop tard, on a tendance à se lever tôt. Est-ce qu'on peut recaler notre sommeil, notre cycle justement avec la méditation?
Ça fait partie de ce qu'on appelle l'hygiène globale du sommeil. Un des premiers conseils, par exemple, c'est arrêter son portable une demi-heure avant, parce qu'on sait que la lumière bleue va maintenir cet éveil. Mettre un petit rituel au niveau du sommeil, ça veut dire réserver son lit au fait de dormir. Prendre un petit temps où on fait une activité qui soit calme et apaisante, donc ça peut être la lecture, mais ça peut être tout à fait la méditation. Là, l'objectif, ce n'est pas tellement de dormir absolument lorsqu'on médite, c'est simplement de laisser à notre corps ce temps de se réadapter au temps du sommeil.
Alors justement, docteur Colombel, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on arrive, enfin même si on lutte pour y arriver, dans cette phase d'endormissement? Et en quoi la méditation, je ne sais pas, elle permet de glisser plus facilement vers cet état-là?
D'un point de vue scientifique, donc là on commence à avoir quand même beaucoup de retours avec la méditation, on sait que la méditation, par exemple, va augmenter le taux de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est la fameuse hormone qui permet de s'endormir. Lorsque les gens méditent, ils vont libérer plus de mélatonine naturellement que les gens qui ne méditent pas.
C'est un somnifère naturel, quoi.
C'est une sorte de somnifère naturel. Bah, d'ailleurs, maintenant, il y a certains somnifères qui sont faits à base de mélatonine. Et on sait encore plus que chez les méditants qui sont experts, c'est-à-dire qui ont plusieurs années de méditation, le taux naturel de mélatonine, même lorsqu'ils ne méditent pas, est plus élevé que dans la population moyenne. Ça veut dire que lorsqu'on commence à avoir un peu de pratique en méditation, on a beaucoup moins de troubles du sommeil.
Et du coup, si on veut améliorer son sommeil avec la méditation, est-ce qu'il faut méditer dans son lit ou est-ce qu'on peut le faire dans le salon ou ailleurs?
C'est possible, on peut faire les deux. Soit on préfère méditer assis, dans ce cas-là, on se fait un petit temps de méditation avant d'aller se coucher. Soit on médite directement dans son lit.
Allongé, en position de dodo.
Il y a une position qui est particulière pour avoir le dos droit. Je vous conseille de méditer plutôt donc sur le dos. Et pour avoir le dos droit, d'éviter d'avoir des gros oreillers. Donc soit on met la tête directement sur le matelas, soit sur un oreiller qui est très fin. Et on va prendre ces 5-10 minutes pour faire l'exercice de méditation dans son lit, le temps de calmer le corps et on observe simplement notre corps qui s'endort tout seul.
On a parlé de l'intérêt donc de la méditation pour ceux qui ont des difficultés d'endormissement, mais il y a parfois des gens aussi qui ont des problèmes d'insomnie, de réveil nocturne et puis de grandes difficultés pour se rendormir. Est-ce que à ce moment-là, quand on se réveille, j'en sais rien, tous les jours à 2-3 heures du matin, ça vaut le coup de tester une petite phase de méditation pour se rendormir? Est-ce que ça pourrait être utile?
Alors pour les réveils nocturnes, il y a deux choses. Soit c'est dû à une autre maladie, je pense par exemple. Ça peut être de l'apnée du sommeil. Dans ce cas-là, il faut absolument aller consulter les médecins parce qu'il y a des traitements spécifiques. Ouais. Mais la plupart des troubles du sommeil, finalement, sont primaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de cause particulière aux troubles du sommeil. Et effectivement, le fait de méditer va remettre notre cerveau dans la circonstance du sommeil, lui faire comprendre que le moment de l'éveil, ce n'est pas encore maintenant et qu'on a le temps de redormir.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait comme exercice de méditation? Il est 2h du matin, on n'arrive pas à fermer les yeux.
Jimmy veut du concret là, hein, il fait quoi à 2h?
On ne prend pas son téléphone déjà parce que c'est le premier réflexe qu'on peut avoir.
Il y a des bonnes applis de méditation, alors je ne sais pas, on tourne le téléphone pour les utiliser.
Le problème du téléphone, c'est la lumière bleue, ça veut dire que ça va réactiver le cerveau. Donc ce n'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux simplement se mettre à plat sur le lit, refaire ses exercices. Un bon exercice que je vous conseille, par exemple, c'est simplement de poser notre attention sur la sensation de la respiration, sur l'air qui rentre et qui sort. On ne fait rien de plus. Et vous allez voir que spontanément, ça va détendre le corps, détendre les muscles. Et le sommeil va revenir de façon naturelle au bout de quelques minutes. Et au moins, ça nous évite de repartir dans nos pensées, dans nos ruminations qui va réactiver sans arrêt le fait de rester éveillé.
On sait qu'en France, on est de grands consommateurs de benzodiazépines somnifères, etc. Justement, pour les somnifères, parfois, il y a des gens qui en prennent sur une courte période et puis qui n'arrêtent jamais, finalement, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à dormir sans ça. Un problème de presque d'addiction à ces médicaments-là. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on sait déjà si le fait de pratiquer la méditation, ça peut aider un petit peu à se sevrer de ce type de médicaments?
De toute façon, c'est toujours une très bonne idée de se sevrer des somnifères. Habituellement, on dit les somnifères, c'est bon, mais pour une période qui est très courte, de quelques semaines. Il faut éviter de passer plus d'un mois de somnifères parce que notre corps va s'habituer à prendre ces somnifères et après, on ne pourra plus dormir sans. Et on sait qu'il y a, il y a quand même des effets secondaires qui sont non négligeables. Je pense, par exemple, chez les personnes âgées, les risques de chute qui sont nettement augmentés sous somnifères. Donc, ça vaut le coup, au début, au moins, de faire la transition, d'essayer avec la méditation, petit à petit, d'enlever le somnifère avec l'aide de son médecin, évidemment, et que la méditation, que les thérapies cognitives
remplacent
un vrai switch avec le médicament, c'est une très bonne idée.
Alors, on a vu que ça peut avoir un impact sur le sommeil. Ceux qui méditent vont avoir plus de mélatonine, donc c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait aussi booster notre cerveau en journée? Est-ce qu'on a déjà étudié ça?
On a étudié sur un facteur important du cerveau qui est l'attention. L'attention, c'est notre capacité à rester finalement concentré, focus sur une tâche. On sait que cette attention, en fait, est un peu la clé de voûte de beaucoup de capacités cognitives. Par exemple, la mémoire. Si on n'est pas capable de se concentrer plus de quelques secondes, on sait que notre mémoire ne va pas marcher, on n'aura pas le temps d'emmagasiner. Donc le simple fait de remuscler cette attention...
La méditation, c'est un sport alors pour le cerveau.
C'est un peu le sport du cerveau. Okay. On va nettement augmenter nos capacités de mémoire, nos capacités d'attention, nos capacités de perception, parce qu'on ne perçoit pas qu'avec ses sens, on perçoit aussi avec son cerveau. Plus on est présent, plus on fait attention à ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, donc on a une vision beaucoup plus large que lorsqu'on est bloqué dans ses pensées. Donc il y a un effet vraiment boost au niveau de beaucoup de fonctions cérébrales.
Alors ceux qui ont déjà testé la méditation, j'imagine, entendent ce qu'on est en train de dire, le comprennent évidemment. Mais est-ce qu'on a déjà observé de manière vraiment scientifique ce qui se passe dans un cerveau quand quelqu'un médite, j'en sais rien, avec de l'imagerie? Est-ce qu'on a déjà observé ça?
On a observé lorsqu'il méditait, on a même observé lorsqu'il ne méditait pas. Et dans les deux cas, on voit une différence. Ça concerne surtout sur tout le système de gestion des émotions qui s'appelle le système limbique. Donc, je vais vous citer quelques zones. Par exemple, il y a le cortex frontal, cortex singulaire, l'insula, qui sont des zones du cerveau qui vont être stimulées par la méditation, tellement bien stimulées qu'on voit les résultats au niveau de l'IRM. Ces zones sont plus développées chez les méditants que chez les gens qui ne méditent pas. Donc oui, il y a un effet concret, il y a un effet même anatomique sur le cerveau de la méditation.
Alors pour comprendre comment fonctionnent nos pensées, il y a le test de l'ours blanc. Est-ce que vous pouvez...
Votre animal préféré, ça tombe bien.
C'est sympa, l'ours blanc.
Ça, c'est un bon exercice. Donc ça nous vient de l'auteur russe Dostoïevski, qui n'était pas, psychologue officiel, mais qui était un bon psychologue de l'âme humaine, et qui avait dit dans un de ses livres... n'essayez pas de penser à un ours blanc, vous allez voir que dès que je vais vous dire cette phrase-là, l'ours blanc va apparaître spontanément. Et donc ça a été repris ensuite par des médecins qui ont fait le test, donc ils ont rassemblé des gens, et il leur a demandé, donc chaque personne a une petite sonnette, et si vous commencez à... donc ne pensez pas à un ours blanc, si vous avez quand même une image d'ours blanc qui apparaît, commencez à appuyer sur la sonnette.
Moi j'ai déjà envie d'appuyer, je l'ai déjà l'ours, vous l'avez
infernal.
Dit Jimmy aussi.
Ah oui, il est devant moi déjà, je le vois.
Au bout de quelques secondes, ça apparaissait. Parce que c'est là le paradoxe de notre cerveau, ça veut dire que plus on va essayer de ne pas faire quelque chose, plus notre cerveau va nous ramener dans cette pensée et en faire quasiment une pensée obsessionnelle au lieu de la laisser passer.
Alors, est-ce que ça pourrait aussi aider ? On parle de la mémoire sur le court terme, les étudiants, les jeunes qui sont stressés, c'est compliqué à vivre en ce moment la période. Est-ce que pour mieux réussir ses examens, on peut imaginer, méditer de temps en temps pour essayer de baisser le stress ?
Plutôt que de prendre des médicaments, soi-disant stimulants de la mémoire.
Peut-être de meilleurs résultats à l'école, ou en tout cas peut-être qu'on se sentira mieux déjà.
La gestion du stress, c'est quand même une grosse problématique chez les étudiants, surtout en ce moment avec le Covid, où ils sont quand même très mis à mal en ce moment. C'est toujours une bonne idée, parce que c'est vrai, quand je vois des étudiants qui prennent des benzodiazépines comme le Xanax, on sait que ça va diminuer leur stress, mais ça va diminuer aussi leur capacité de mémoire, ce qui est un vrai problème pour des gens qui ont des examens à passer. La méditation va vraiment leur aider à gérer ce stress donc ponctuel de l'examen. Et finalement, ce n'est pas ça qui leur fera avoir des meilleures notes, mais c'est ce qui fera qu'ils pourront ressortir toutes leurs ressources au moment de l'examen.
Vous dites aussi dans votre livre que méditer permet de booster notre créativité, notre imaginaire, et vous donnez même des exemples de grands créateurs adeptes de la méditation. On vous écoute.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on a constaté en Asie depuis très longtemps. Par exemple, les peintres zen ont pour tradition de méditer avant de se mettre devant la peinture et d'exprimer ce qui se passe dans leur inconscient. La méditation est vraiment liée au processus de création. Comme on se disait tout à l'heure, comme on va augmenter notre sensorialité, on va augmenter notre rapport à la couleur, notre rapport au son, notre rapport au goût. Donc finalement, on va augmenter nos capacités à ressentir le monde. Et c'est quand même le point d'entrée de tous les artistes, c'est de réussir à exprimer ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Et la première voie d'entrée de ça, c'est leur sens. C'est ce qu'ils comprennent du monde, ce qu'ils ressentent du monde.
C'est ça qui vous manque, Jimmy, pour être un peu artiste, quoi,
finalement. Non, mais je suis vraiment convaincue, je vais m'y mettre. Et avec les enfants, à partir de quel âge on peut commencer ?
Les enfants, donc, pour la méditation, vers 5-6 ans. Il faut qu'ils aient des petites capacités quand même de concentration. Donc chez les enfants, on fait quasiment les mêmes méditations, mais en plus court, évidemment. On ne va pas faire des méditations de 10-15 minutes qui sont quand même très longs pour eux. On va réduire à 5, peut-être même 2-3 minutes pour les tout-petits. Mais les enfants, spontanément, comprennent très rapidement ce que c'est que la méditation. Parce
quel bénéfice pour eux ?
Les enfants vivent déjà un peu dans un mode méditatif. Ils sont souvent à l'instant présent. Je parle des petits. Ils sont dans leur sens, ils sont dans leur sensorialité. Donc on va leur apprendre vraiment à rediriger cette attention sur leur corps. Mais si on leur explique, les enfants, généralement, adhèrent très rapidement. Et c'est très facile pour eux d'apprendre la méditation.
Très bien, merci beaucoup docteur Colombel de nous avoir accompagné cet après-midi, de nous avoir ouvert les chemins de la méditation. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Méditation des journées pour des journées plus zen » chez Marabout. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. À présent, passons à notre séquence, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur les vers intestinaux. Pour quelles raisons se nichent-ils dans le tube digestif, principalement de nos enfants ? Comment savoir que son enfant a des vers, justement ? Et surtout, comment en finir ? Comment s'en débarrasser ? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Les vers aux fesses ? Les vers dans les selles, plutôt. Les vers aux fesses, c'est des petits vers blancs.
Les vers aux fesses, comme le nom l'indique, des vers aux fesses.
Les vers aux fesses, moi, je pense plutôt au singulier, au vers solitaire.
Je n'ai jamais eu de vers aux fesses, merci. Mais j'imagine, comme pour les animaux, il doit y avoir des systèmes de vermifuge, en fait, pour enlever tous les parasites de l'intestin et éviter ce genre de situation et de problème.
Bah, quand ça nous démange.
Je pense qu'on sait qu'on a des vers aux fesses quand ça gratte. Ça gratte le cucu.
Ça arrive couramment pour des enfants de passage qui jouent éventuellement dans des bacs à sable et qui mangent un peu de sable.
Généralement, le remède de grand-mère, c'était de mettre un bol de lait chaud.
Un bol de chez les chauds, mais à quel endroit ?
Drôle d'idée.
J'ai pas compris l'astuce de grand-mère. Mais bon, Jimmy, ça gratte le cucu, nous a dit certains. Je crois que c'est un peu ça, on va en parler. C'est quoi d'abord ces vers intestinaux ? C'est vraiment des vers, hein ?
Exactement, c'est un parasite intestinal qui est très fréquent, qui est strictement humain. C'est un petit ver qui est rond, qu'on appelle Enteromobius vermicularis.
Oh, joli.
Et derrière ce petit nom se cachent souvent des femelles qui vont causer des problèmes, qui font 1 à 1,5 cm.
Ah, quand même,
et qui
c'est
ont une
grand.
Particularité,
oh là là.
C'est assez gros, ouais. Qui ont aussi un gros utérus. Donc, ils vont être distendus au niveau du ventre.
Vous les connaissez bien, j'ai l'impression.
Ils très bien, parce qu'ils vont contenir de nombreux œufs qui vont ensuite.
Ils sont blancs, on est d'accord ?
Exactement, blancs. Ouais. Et vous les avez vous
non,
les
non, je
ne
les connais
aussi.
Pas, moi, d'accord. On attrape ça comment ? Il y a une dame qui disait dans le micro-trottoir, dans les bacs à sable, les petits-enfants, c'est ça ?
Oui, alors essentiellement, c'est les enfants qui vont être touchés, en particulier dans les collectivités. L'enfant, c'est très simple, il va attraper ça dans le bac à sable, puisque l'enfant va jouer, et donc les vers se trouvent dans le sable. Et puis, il va avoir des petits vers qui vont se mettre sous les ongles des doigts des enfants.
Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait?
Il met les doigts
à la bouche. Et donc à ce moment-là, il
va se
passer... Il se met dans le nez, mais il va les mettre aussi à la bouche. Il va avaler. Et là, vous avez les œufs qui vont éclore sous l'effet des sucs digestifs. Et puis ils vont muer. Il va y avoir 5 mues qui vont évoluer sur 2 à 4 semaines. Et ils vont atteindre leur taille adulte au niveau de l'appendice, pas loin de l'appendicite, ce qui pourrait donner une éventuelle appendicite. Et puis les femelles vont descendre le long du rectum, s'accrocher au niveau de la marge anale, pondre des œufs.
Ça fait peur, là, j'ai des images, Jimmy.
Bon, 10 000 œufs qui vont être pondus, et ensuite elles vont mourir. Mais ces œufs vont éclore, et ça va donner les petites démangeaisons.
Alors c'est ça, ça gratte, hein, ça gratouille, c'est ça.
Oui,
ça c'est le principal symptôme ou il y a d'autres choses?
Essentiellement, c'est donc le prurite.
Un petit qui dit, ça me gratte les fesses, généralement, il n'y a pas de doute, c'est des vers.
Et souvent, on va retrouver ce qu'on appelle des lésions de grattage, puisque ça va être des démangeaisons qui vont être très intenses. Mais vous pouvez avoir d'autres symptômes très atypiques, avec un enfant qui va avoir des cauchemars la nuit, qui va être irritable. Puisque la nuit, ça va le perturber à cause des vers. Et chez la petite fille, on peut avoir ce qu'on appelle une vulvite, une inflammation de la vulve. Et c'est des signes indirects qui doivent faire suspecter ces vers.
Bon, le plus important, Jimmy, parce que c'est vraiment dégoûtant tout ce que vous nous avez décrit, cette famille gigantesque dans nos intestins. Parce qu'on est d'accord, je pense que toute la famille peut en attraper quand il y en a un atteint. On s'en débarrasse surtout comment est-ce qu'il faut traiter tout le monde.
On vermifuge avec un petit sirop qui est disponible sans ordonnance.
C'est très simple.
Ça s'appelle du Fluvermal. Voilà. C'est une cuillère mesure qu'on donne à tout le monde.
Et 15 jours après, je crois.
Exactement, puisqu'il y a un cycle qui.
Je
justement,
connais un
les
peu,
œufs. Et vous êtes une patiente experte, mais on
enfants,
va pas tout dévoiler.
Des enfants.
C'est une patiente.
D'accord.
Et au bout de 2-3 semaines, on recommence le procédé et normalement on s'en débarrasse plutôt pas trop mal.
Vous mieux traitez petits et grands ou que les petits?
On traite tout le monde en règle générale, même si souvent les adultes font un peu plus attention. On traite en général toute la fratrie pour être tranquille. Et quand on a un doute, on peut faire ce qu'on appelle un test, qui s'appelle le scotch test. Il consiste à mettre un morceau de scotch sur la marge anale. C'est fait par le médecin du laboratoire.
Ah oui, je veux dire qui fait ça,
Et pour justement identifier ces parasites quand on a un doute, notamment sur le diagnostic.
Eh bien, écoutez, je n'avais jamais entendu parler de ce scotch
vous
test
irez au laboratoire,
génial.
Mélanie.
Merci beaucoup pour cet éclairage et tous ces conseils pratiques.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et maintenant, vous l'attendez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et on va répondre aujourd'hui à la question de Françoise. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, ma question s'adresse à la rubrique sexo. J'ai découvert cet été que mon mari me trompait. Ça durait depuis 2 ans, mais je n'avais rien vu parce que son désir était toujours présent pour moi. Donc, je voudrais connaître comment fonctionne la libido masculine dans le cas de l'infidélité. Merci.
Merci beaucoup, Françoise, pour cette question et ce témoignage. Alors, Catherine, est-ce que c'est possible, tout simplement, un homme non, qui trompe sa femme, mais qui, malgré tout, garde pendant tout ce temps, là, ça a duré 2 ans, c'est quand même très long, cette tromperie, du désir pour elle au quotidien, enfin régulièrement, comme avant, quoi. C'est possible?
Bien sûr. Alors, évidemment, derrière cette notion de désir pour sa femme, se pose la question de désir pour sa femme ou de désir sexuel et donc d'érection et d'occasion dans la relation pour faire l'amour. Donc oui, on peut avoir du désir pour un individu en aimant cet individu et du désir pour un autre individu en aimant aussi cet individu ou en désirant simplement parce qu'il est source d'excitation ou complément de ce que nous avons par ailleurs dans une relation établie. Ce qui n'est pas très rassurant pour Françoise et on voit bien combien dans son ton de voix elle est affectée par la situation parce qu'elle a le sentiment vraiment d'avoir été trompée, pas seulement parce qu'il est allé avec une autre femme, mais trompée jusque dans l'idée de la sécurité de la relation puisqu'elle voyait un désir exprimé et qu'elle y répondait et que manifestement ça ne suffisait pas à son mari qui pendant 2 ans a entretenu une autre relation.
Est-ce que ça peut être encore plus mal vécu le fait justement de savoir qu'il y a eu des relations sexuelles et que pour autant il a été voir ailleurs? Alors que lorsqu'il n'y a pas de relation sexuelle, on se dit bon bah je comprends, il y avait un problème, ça n'allait pas.
Que le satisfaisait pas.
Voilà,
c'est ça,
il y avait, on n'était pas au rendez-vous justement de l'intimité. Donc là, est-ce que ça peut être encore plus dur à accepter ça?
Alors c'est intéressant cette question, Jimmy, parce que en fait, quand on est trompé, mais que la relation ne va pas bien. On comprend en effet que la personne soit allée chercher ailleurs, mais on se dit qu'elle n'a pas cherché à améliorer la relation et qu'elle a laissé ou qu'elle a vidé la relation du potentiel qui est utilisé ailleurs. Et quand au contraire, la relation se passe bien, semble se passer tout à fait bien et tout à fait normalement et qu'on découvre qu'il y a une infidélité, on a le sentiment d'avoir été trompé, alors que dans la réalité, on n'a rien perdu de ce que l'on avait de la relation. On pourrait se dire qu'on devrait moins souffrir en réalité, puisque pendant qu'il allait voir ailleurs, pendant ce temps, moi, je n'étais privée de rien. La relation n'a pas changé de qualité, la sexualité n'a pas changé de qualité et de fréquence, donc je ne devrais pas en souffrir. Et pourtant, narcissiquement, c'est douloureux, parce que c'est douloureux de se dire que je n'étais pas avec qui je croyais que j'étais, et parce que je projette que je dois être l'objet exclusif de l'autre, et que c'est à ce titre que je suis aimée, et que c'est à ce titre que j'ai de la valeur.
Sans vouloir dire que c'est ce qui s'est passé, on ne sait évidemment pas, mais est-ce que c'est possible aussi que cet homme ait fait semblant ? Est-ce qu'un homme peut vraiment faire semblant pendant 2 ans d'être dans le désir pour sa femme, alors que ce n'est pas du tout le cas ? Parce que bon, effectivement, techniquement, il y a une érection, il y a un rapport sexuel, mais un homme peut masquer aussi, non ?
Bien sûr, un homme peut masquer parce qu'il connaît des érections et qu'il utilise ses érections avec une femme. Après, c'est de toute façon, elle est suffisamment désirable pour ne pas être débandante. Je n'aime pas cette expression parce que ce n'est pas une femme qui fait débander un homme, mais en tout cas, elle ne sent pas l'objet de...
Il a pu la tromper sur son désir, je veux dire, au quotidien pendant 2 ans, c'est possible.
Il a pu masquer en tout cas ce qui animait le désir, c'est-à-dire est-ce que j'ai une excitation ? Encore une fois, même dans les couples qui vont bien ensemble, il y a des moments où le désir n'est pas tant pour l'autre, c'est un désir sexuel et grâce à l'autre, on va pouvoir le vivre. Donc ça a pu se faire comme ça, mais exclusivement comme ça, éventuellement.
Et à l'inverse, un homme ou une femme qui n'aurait plus de libido, ça ne veut pas dire qu'il ou elle va voir ailleurs. On peut avoir des baisses de libido sans tromper.
Absolument, Jimmy. On peut, heureusement, on l'accorde volontiers aux femmes, mais pas aux hommes. Une femme qui a des baisses de libido, on se dit qu'elles sont en panne parce qu'elles sont toujours en panne et tellement compliquées, ces femmes, alors que pas du tout. Et les hommes, de leur côté, on leur attribue un sexe toujours bandant, toujours en désir. Donc, résultat, s'ils ne sont pas à désir, c'est qu'ils sont en désir ailleurs. Alors que les hommes sont pleins d'émotions.
Ils peuvent être en panne aussi, parfois.
Bien sûr, il y a des tas de choses qui viennent évidemment contrarier leur désir, leur érection. Et parfois, ils sont en désir dans leur tête, mais le corps est en panne pour X raisons.
Et ce n'est pas la tromperie, forcément.
Et ce n'est pas une tromperie ou l'œil qui frise ailleurs qui en serait l'origine.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour messieurs.
Bonjour mon ami.
Bonjour Mélanie.
Mais plus dur sera la chute. Hein.
Voilà, vous parlez déjà... pour les Mélanie
Non,
c'est nos personnages dans Historiquement Vôtre. Ils sont tombés de haut. Robespierre, un jour il était au sommet, le lendemain, quick.
Oui, voilà. C'est vraiment,
Richard Nixon, réélu président des États-Unis, quick, le Watergate. Il démissionne. Et vous avez quelqu'un qui est tombé de haut.
Moi, j'avais pas vraiment compris le thème de l'émission, mais tombé de haut, j'ai pris Félix Baumgartner, vous savez, le recordman du monde du saut en parachute le plus haut. Il a sauté de 39 000 mètres, c'est-à-dire 4 fois l'Everest, et il a surtout franchi le mur du son tout seul, sans avion, avec juste sa combinaison. Et il est toujours vivant.
Ah oui, c'est ça, parce que je voulais la fin.
Mais après, il est autrichien, donc il est costaud.
C'est pour ça.
Bon, très bien. Des histoires d'hommes fabuleux qui sont tombés de haut, mais qui sont restés vivants. Donc voilà.
Pas tous.
Non, merci, j'avais douté.
Je veux pas. Ça fait le suspense.
Non, mais je veux dire, après la chute, quoi.
Dans le souvenir d'Alexis Corbière, et c'est déjà énorme.
Allez, très bien. On reste sur Europe 1.